بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاغي سوى توت للوانج ربنا الله رب العزة كي ندانا possibilité de reprendre nos programmes ce soir après une petite interruption pour la nuit impair du 25e et donc 27e en métropole. Bi'idhnillahi azza wa jal, nous continuons le tafsir du verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Nous sommes donc dans le tafsir de la sourate Al-Fatiha et on avait commencé à aborder Ar-Rahman Ar-Rahim, le très clément, le très miséricordieux. Et on avait vu que Ar-Rahman, c'est la clémence d'Allah Rabbul Izzah qui est générale, qui englobe l'ensemble de l'humanité. Mu'minuhum wa kafiruhum, les gens qui croient en Allah, mais également ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Et Ar-Rahim, c'est cette clémence divine qui est khassa, qui est spécifique aux croyants. À quel moment? Yawm al-Qiyama, le jour des comptes. Et on avait vu certains versets comme Kana bil mu'minin rahima, et on avait vu le hadith qui stipule qu'Allah Rabbul Izzah a mi'atu rahma, 100 clémence, le chiffre 100, et 99 rahma, Allah Azza wa Jalla l'a gardé dans le akhirah li ahli tawhid, ceux qui ont la ilaha illallah, ceux qui croient en lui, et le jour de Qiyama, Allah Rabbul Izzah nous surprendra. Subhanallah. Et le terme n'est pas suffisant. Allah Rabbul Izzah va nous surprendre et va nous impressionner par sa clémence, sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance envers tous ceux qui ont la ilaha illallah. Et c'est vraiment ce que nous devons espérer. Que le jour de Qiyamah, Allah ait pitié de nous, parce que c'est uniquement par la clémence d'Allah, par la bonté de notre Seigneur, que nous pouvons espérer accéder au Jannah. Que personne, subhanallah, ne compte sur ses a'mal, sur ses actions, sur sa, entre guillemets, sa piété, parce que réellement nos actions, Allah musta'an, ne valent pas grand chose. Si les sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, tremblaient à l'idée d'être ressuscités, d'être présentés devant Allah Azza wa Jal, d'être jugés, malgré le fait qu'ils étaient auprès du prophète alayhi salat wa salam, et qu'ils ont accompli, subhanallah, ce qu'ils ont accompli comme action extraordinaire, comme acte de bravoure, c'est sûr qu'à notre niveau, nous ne pouvons pas compter sur nos a'mal, mais c'est vraiment sur la clémence de notre Seigneur. Et en relisant, alors, on a pris un peu de temps avant de commencer, ça tout à l'heure, on a pris du temps, mais je ne vous cache pas que j'étais en train de relire certains ouvrages de tafsir, principalement celui qui a été rédigé par le contemporain, le docteur Ibrahim Ad-Darwish, et on n'arrête pas, subhanallah, d'apprendre, de découvrir et de réactualiser un peu ce que, entre guillemets, nos connaissances, et ça a pris du temps, mais franchement, en termes de résultats, c'est extraordinaire ce que les ulama ont pu faire comme effort pour commenter les versets. Et on citera quelques propos de ce cheikh dans un instant. Concernant la clémence d'Allah, le jour de Qiyama, il me semble qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois, j'ai dû oublier de parler de ça. Dans ce dunya, non, en fait, on n'a pas donné les hadiths concernant la clémence. Alors, on peut commencer par Ar-Rahman, la clémence d'Allah, celle qui est générale. On citera 5 hadiths, mais des hadiths de base que normalement, bi'idhnillah, nous savons tous. Le prophète alayhi salat wa salam était une fois avec ses sahaba dans un endroit, et il y avait une femme qui avait son enfant nourrisson qui était donc avec elle. Elle lui donnait du lait, bien sûr caché sous on va dire sa tunique ou alors son châle, comme on peut l'appeler. Le prophète alayhi salat wa salam a vu donc de loin cette femme, et pas loin il y avait un feu certainement pour se réchauffer. Il a dit aux sahaba: oh mes chers compagnons, pensez-vous une seconde que cette maman pourrait prendre ce nourrisson et le jeter dans le feu? Ça veut dire au prophète d'Allah, bien sûr que non, parce que l'amour qu'une maman a pour son enfant, c'est le summum de l'amour qui peut exister sur terre. Et là, le prophète alayhi salat wa salam a rappelé aux sahaba le hadith qui est connu: sachez qu'Allah azza wa jal a plus d'amour, de compassion, d'attachement, de pitié pour vous que cette maman pour le nourrisson. Et ça, c'est toute la sagesse, la hikma de notre prophète alayhi salat wa salam fi darb al amthal. Quand il donne des exemples, il donne toujours des exemples qui peuvent être vus, compris immédiatement. Et là, le Sahaba vient visuel sur cette femme qui avait son enfant blotti contre elle, avec ce feu qui était présent. Le prophète alayhi salat wa salam permet au Sahaba, et ça c'est toute la pédagogie de notre Habib alayhi salat wa salam, de comprendre et d'intégrer qu'Allah Rabbul Izzah réellement nous aime beaucoup plus que cette maman qui aime son enfant. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. On a reparlé encore de la notion qu'Allah est amour. Et si vous avez écouté en audio le programme de Cheikh Anas de samedi dernier, donc il y a quelques jours, il avait parlé également de Allah qui est Al-Wadud, hein, Allah qui est rempli d'amour pour ses créatures. Je vous invite à écouter son audio. Et de toute façon, ces discours se rejoignent, hein, quand on parle des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un hadith qui est important de s'en souvenir afin de, on va dire, de sortir un peu des schémas, comme on avait expliqué la dernière fois, de religion où il y a des obligations, des interdits, des limites et des châtiments et des choses qui sont imposées. Certes, il y a des hudud, tel que hududullah, mais au-delà de ça, la relation du croyant avec Allah, Azza wa Jal, c'est une relation qui est basée sur la clémence et la miséricorde. Et comme on l'a dit, ce n'est pas pour rien si ce sont les deux noms d'Allah que nous lisons le plus durant toute une vie, subhanallah. Deuxième hadith que nous allons citer, alors il y en a énormément, mais on a sélectionné trois ou quatre, un hadith de l'imam muslim, de lequel le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle, hadith surprenant, je pense qu'on n'a pas, ça ne fait pas partie des hadiths qu'on cite très souvent, qu'on a l'habitude d'entendre. « Law ya'lamu al-kafiru ma indallahi min ar-rahma ma qanita min jannatihi ahadun » Si le kafir, si une personne qui n'a pas la foi en Allah, si seulement le kafir savait la clémence d'Allah, la quantité de rahma, de clémence qu'a notre Seigneur, aucun d'entre eux n'aurait désespéré d'obtenir son Jannah. Les termes sont forts, hein. Celui qui n'a pas la foi, s'il avait connaissance des textes qui décrivent la clémence d'Allah, cette personne aurait espoir que si Qiyama il y a un jour, qu'assurément ce Seigneur qui est aussi clément, miséricordieux, nous pardonnerait en ce jour et nous ferait accéder au paradis. Le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam parle bien sûr d'une situation qui ne se produira pas, car Allah ne pardonne ni le shirk ni le kufr, bien sûr, on comprend, mais c'est pour qu'on comprenne que qu'on intègre le fait que quand une personne réalise et prend connaissance, et c'est ce que nous essayons de faire dans le tafsir de Ar-Rahman Ar-Rahim, réaliser la clémence et la miséricorde d'Allah afin que nos cœurs soient remplis d'espoir, et que lorsque nous faisons doua et que nous invoquons notre Seigneur, nous n'oublions jamais que nous levons les mains et que nous adressons nos prières à celui qui est clément et miséricordieux. Hada. Troisième hadith, surprenant également, il me semble que ça avait été abordé dans un des séminaires concernant Moussa alayhi salam. C'est lorsque Allah Rabbul Izzah détruit Pharaon, lorsque la mer s'est refermée, l'histoire est connue, la mer s'est ouverte pour que Moussa alayhi salam puisse passer, et lorsque Moussa alayhi salam a accompagné de l'ensemble des Banu Israël ont pu traverser la mer, Allah Azza wa Jal a ordonné à la mer de rester comme elle est, c'est-à-dire ouverte. Et c'est là que Pharaon, rempli d'orgueil et de fierté, a osé dire à son armée que voilà donc la mer qui s'est ouverte pour moi, Pharaon, afin que je puisse rejoindre mes ennemis. C'est-à-dire qu'Aduwallah, l'ennemi d'Allah, lorsqu'il est dans le summum de sa perdition, ou alors plutôt dans les abysses de sa dalala, de sa perdition, va user de son, j'allais dire entre guillemets, intelligence, de son aql, pour essayer de trouver toujours makhraj, une issue pour cautionner ses péchés, ses erreurs et son kufr. Qu'Allah nous protège. Et ça, contrairement aux croyants qui utilisent son intelligence pour comprendre les signes d'Allah à travers la création. Celui dont le cœur est rempli de fierté, d'orgueil et qui ne fait que suivre son nafs va utiliser ses arguments, son éloquence, son pouvoir de persuasion, ses bienfaits, comme là c'était le mulk, le pouvoir de Pharaon, sa royauté. Il va l'utiliser, bil'ax, au contraire, pour détourner les gens du droit chemin ou pour se persuader et rester dans l'insouciance ou dans la perdition. Et c'était ce que Pharaon avait fait. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Lorsque Allah Azza wa Jalla a ordonné ensuite à Moussa alayhi salam de frapper la mer une seconde fois, Et c'est là que la mère s'est refermée et Pharaon il a péri avec son armée. Et dans certains hadiths, il est stipulé qu'à cet instant, l'ange Jibril alayhi salam est apparu et il a rempli de terre la bouche de Pharaon. Pourquoi ? Il est stipulé dans les hadiths que Pharaon allait implorer Allah. Vous savez que quand il commençait à mourir, il a dit « Amantu billah ». Maintenant, je crois en Allah. Et là, il y a le verset « Al, Anna », c'est seulement maintenant. Les versets sont connus, l'histoire est très connue. Et donc, dans les commentaires, il est cité comme hadith que lorsque Jibril a entendu Pharaon implorer Allah, il a mis de la terre dans sa bouche afin qu'il ne complète pas sa phrase et qu'il n'implore pas excessivement Allah de crainte qu'Allah Azza wa Jal ait pitié de lui à cet instant et lui accorde son pardon. C'est ce que les savants ils disent qu'à travers ce hadith nous voyons l'étendue, la clémence d'Allah est exceptionnelle, mais bien sûr Allah a décrété que Pharaon termine et meurt de cette façon, c'était la décision d'Allah Azza wa Jal, mais ce texte nous permet de comprendre l'étendue de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Troisième texte, troisième hadith, allez, on s'arrêtera là, le dernier, c'est l'histoire très connue de cet homme qui avait tué 99 personnes, il a été voir un abid, un adorateur d'Allah, en lui demandant « Est-ce qu'Allah va accepter ma demande de taouba ?» Celui-ci lui a dit non, on connaît l'histoire, il a tué cette personne aussi, et ensuite il a trouvé un savant, l'histoire est connue. Et lorsqu'il meurt, il prend le chemin vers ce village pour s'éloigner de l'endroit où il habitait, pour trouver le pardon d'Allah, Allah Rabbul Izza a décidé de lui accorder son pardon. Ainsi, cette personne accède au Jannah parce qu'il avait regretté ses péchés. Il avait l'intention, il a demandé Tawba, il avait l'intention de ne plus le recommencer. On a les shurut, les conditions du repentir sincère, et il a pris des précautions pour ne plus recommencer les mêmes péchés, c'est-à-dire quitter l'endroit et aller vers un autre endroit. Dans son cas, lui, ça devait être quitter cet endroit et aller habiter parmi des gens qui étaient pieux. Parenthèse dans la parenthèse, nous retrouvons les quatre conditions du repentir sincère dans cette histoire. Et ce que les savants mettent en avant très souvent à travers ce hadith, c'est l'étendue de la clémence d'Allah également. Dans cette situation où Allah est capable d'accorder son pardon à une personne qui a commis des actes aussi odieux. Maintenant concernant Ar-Rahim, la clémence d'Allah le jour de Qiyamah, là, subhanallah, il aurait fallu passer en revue l'ensemble des textes qui décrivent comment seront honorés les croyants le jour de Qiyamah. Et encore une fois, si les croyants sont honorés le jour de Qiyamah, c'est pas la clémence de Ar-Rahim. Ce n'est pas par rapport aux bonnes actions uniquement, c'est pas qu'ils auront mérité quoi que ce soit. C'est vraiment qu'Allah Azza wa Jal leur accorde sa clémence en ce jour. Et on a les hadiths, hein, entre autres, il y en a tellement, mais on a juste à se rappeler du hadith qui stipule que le jour de Qiyamah, il y aura sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, Rabbul Izza, yawma la dhilla illa dhillu. Le jour, il n'y aura d'ombre si ce n'est l'ombre du trône d'Allah. Et ça découle également de la clémence d'Allah à l'attention des Ahlut Tawhid. Pas de l'ensemble de la création, mais des gens qui ont la ilaha illallah et qui ont adoré Allah dans ce dunya. Et ça fait partie des hadiths de l'espoir. L'espoir, nous concernant dans ce mois de Ramadan, c'est de penser à ce hadith et à une catégorie qui m'intéresse, je disais donc, durant ce mois. C'est l'homme ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, un homme qui pense à Allah dans la solitude, et c'est interprété également dans l'obscurité de la nuit. ففاضت عيناه, il se met à pleurer par amour et par crainte d'Allah عز وجل. Allah lui garantit une place sous l'ombre de son trône le jour de Qiyama. Allahumma ij'alna minhum, qu'Allah nous l'accorde. Et donc profitons de cette nuit. Pour nous, à la réunion, c'est la 28e, et il nous restera, alhamdoulilah, une nuit impaire. Et vous savez que dans certains textes, il est stipulé que les nuits les plus probables pour la nuit du destin, c'est 27e et 29e. Donc on profite de ce qui nous reste. Et pareil pour ceux qui sont en métropole, de cette dernière nuit, hein, subhanallah, pour vous, du mois de Ramadan, pour se concentrer dans la lecture mets une lecture dans le Qiyam al-Layl avec Tadabbur, et si, mashallah, Allah t'honore et t'accorde cette chance de pouvoir verser des larmes en lisant Al-Fatiha ou autre verset du Coran, c'est vraiment une consécration. C'est vraiment, on peut même dire, c'est un mois de Ramadan accompli. C'est peut-être même une vie réussie, parce que on peut espérer avoir cette place sous l'ombre du trône d'Allah. Et c'est une faveur qui n'est accordée que aux Ahlul Tawhid, aux gens qui ont la ilaha illallah dans leur cœur. Et donc, ça, c'est la clémence d'Allah, le jour de Qiyam. La clémence d'Allah, le jour de Qiyam, pour les gens qui ont la foi, c'est également le hadith qui parle de celui qui n'a pas compléter le nombre de prières de ce dunya. La personne qui, pour une quelconque raison, n'a pas pu accomplir l'ensemble de ses salawat dans ce dunya, le prophète alayhi salatu wa salam rappelle que « Insha'a azzabahu wa insha'a ghafarala ». Allah Rabbul Izzah prendra la décision le jour de Qiyamah. S'il le souhaite, il pardonnera à la personne. S'il le souhaite, il va punir cette personne. Et ça dépend également de la clémence d'Allah, ça découle de sa clémence le jour du Qiyam. Parmi sa clémence le jour du Qiyam, pour ceux qui ont la foi, le fait de venir en aide, enfin, le fait qu'Allah Azza wa Jal permet aux croyants de passer des étapes difficiles du jour du Qiyam en récompense du fait que cette personne soit venue en aide à son frère en islam de ce dunya. Un hadith qui rappelle que celui qui vient en aide à son frère de ce dunya, farrajallahu anhu, Allah Rabbul Izzah lui facilitera une difficulté du qiyam. C'est-à-dire, les hadiths qui mentionnent la clémence d'Allah pour ceux qui ont la foi, tout cela découle de cette deuxième qualité, de ce deuxième nom d'Allah et de cette qualité, Allah qui est Ar-Rahim, et une clémence qui sera visible le jour du Qiyam. Hada. Voilà donc quelques hadiths, quelques nusus concernant la clémence d'Allah de ce dunya pour l'ensemble de sa création et sa clémence spécifique aux croyants le jour du Qiyam. Il y avait un point que j'ai hésité à mentionner, j'y réfléchis, mais finalement je pense que il est bon d'en parler, hein, parce que de notre parcours, Inch'Allah, ensemble, l'étude de Al-Fatiha, il est normal qu'on doit voir les noms d'Allah et les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Certaines personnes émettent des réserves concernant le fait qu'Allah soit clément et miséricordieux. Pourquoi ? Enfin, pas le fait qu'Allah soit clément, mais le fait qu'on attribue à Allah, Rabbul Izzah, la clémence et la miséricorde. Pourquoi ? Ils disent que la clémence et la miséricorde, ce sont des sentiments qui naissent à partir du moment où le cœur d'une personne devient sensible à un cas. Suivez le raisonnement. On va dire, là, on a un raisonnement purement humain. On a un raisonnement de psychologue, à peu près, d'accord, de psychanalyste ou ce que vous voulez. Et dit que donc, le fait que ce sentiment, la clémence découle, on va dire, d'une personne qui a un cœur sensible face à une situation, c'est un sentiment qui frôle un peu, na'oud billah, c'est un sentiment un peu de faiblesse. Et cela est propre aux humains. Et Allah ne peut pas avoir ce genre de sentiment. Une approche qui peut surprendre, mais malheureusement, beaucoup de courants, beaucoup d'idéologies concernant les noms, les attributs d'Allah, qui suivent ce chemin et qui vont refuser certains noms, certains attributs à Allah Azza wa Jal, parce que ce sont des noms et des attributs, ou ce sont des, il parle plutôt des sifat, ce sont des attributs qui sont propres aux humains et qui ne peuvent donc appartenir à Allah Azza wa Jal. Le problème, c'est que ces personnes n'ont pas compris que les termes utilisés dans le Coran, en aqidah, on appelle ça le lafd mushtarak, le terme commun. C'est le mot par lequel Allah nous fait comprendre une de ses qualités. Et c'est un mot qui, logiquement, appartient au jargon, au vocabulaire des êtres humains. Et si c'était un terme qui était au-delà de la compréhension humaine, ben on n'aurait jamais pu comprendre comment est la clémence d'Allah, sa miséricorde, et ainsi de suite. Donc, la règle de base, alors je vous ai fait ce développement pour revenir à une règle de base dans l'étude des noms des attributs d'Allah, c'est le verset Laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable, n'est comparable à Allah Azza wa Jal. Et ça, cette règle, nous devons l'intégrer pour éviter les mauvaises interprétations lorsqu'il s'agit d'une qualité humaine qui est attribuée à Allah Azza wa Jal. Alors, autant on a tous compris qu'Allah voit tout et entend tout et sait ce qu'il y a dans le cœur, mais d'une certaine façon, le fait de voir et d'entendre, ça fait partie également des spécificités des créatures. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'opposition. Alors donc, on voit bien qu'il y a une incohérence et qu'il ne faut surtout pas analyser les noms, essayer de comprendre les noms et les attributs d'Allah en passant par un raisonnement humain. Non, c'est de la révélation. C'est ce qu'Allah nous a révélé. Amanna wa saddaqna. Et nous n'avons pas essayé de creuser, de comprendre le pourquoi. Nous avons ce Alladina yu'minuna bil-ghaib, cette foi en l'invisible, qui nous demande d'accepter les noms d'Allah et ses attributs et de se dire laysa kamithlihi shay, rien n'est semblable à Allah azza wa jalla. De cette façon, nous évitons des divergences, parce que Allah musta'an, dans la compréhension des noms et des attributs d'Allah, il y a eu malheureusement beaucoup de tafriq, beaucoup de divisions, et ces divisions, Allah musta'an, sont préjudiciables à la umma. Docteur Ibrahim Darwish rahimahullah, hafidhahullah, il est toujours vivant. Donc en conclusion de l'étude de Ar-Rahman Ar-Rahim, que le mu'min qui lit ce verset 17 ou 20 fois par jour doit finir par intégrer que son cœur s'oriente vers un Seigneur qui est clément et miséricordieux. Et donc ne jamais perdre espoir en Allah Azza wa Jal. Il dit également que lorsque dans la surat al-Fatiha de la Salah, on lit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, certes, nous sommes en train de lire des noms, des attributs d'Allah Azza wa Jal, mais c'est également du'a ou istijda, c'est également une invocation. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, dans ton cœur, tu dois intégrer que tu es en train d'invoquer Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ainsi donc, en lisant ces versets, ton cœur doit être rempli d'espoir. Tu ne fais pas que citer les noms, les qualités d'Allah et lire les versets qui rappellent ces qualités d'Allah. Tu es en train d'invoquer celui qui est clément et miséricordieux. Et c'est ce qui doit se passer dans mon cœur à l'instant où je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Je dois intégrer que je suis en train à cet instant d'invoquer celui qui est clément et miséricordieux. Et là, c'est comme si que mon cœur est en train de s'épanouir, ma poitrine s'ouvre et mon cœur est rempli d'espoir, le fait que j'invoque celui qui est clément et miséricordieux. Le cheikh fait également une recherche en comparant Rahman Rahim avec des résultats qui sont assez surprenants. Yaqulu hafidhahullah que dhukirat fil Qur'an le mot Rahman a été cité dans le Qur'an 57 fois. Rahman a été cité dans le Qur'an 57 fois et le nom Rahim a été cité 114 fois, dit exactement le double. Ajib. Ça fait partie des, on va dire, des i'jaz, des points, on va dire, miraculeux du Coran, cette concordance entre les nombres. 57 fois le nom Rahman et 114 fois, c'est exactement le double, le nom Rahim. On va dire que ça, c'est pour anecdote. Et il conclut en rappelant un principe. Alors ça, c'est un principe dans l'étude des noms d'Allah. Et le mardi soir, quand on fait ces programmes donc à Masjid Nour Islam, on le rappelle en conclusion de chaque programme qu'il y a une qa'ida, une règle, c'est at-takhalluqu bi akhlaqillah. C'est que le croyant doit s'imprégner de cette qualité d'Allah et essayer de prendre, essayer d'imiter, pas d'imiter, mais essayer de s'inspirer de cette qualité pour le vivre et le faire vivre aux gens. Ainsi donc, quand je comprends et j'intègre le fait qu'Allah soit clément et miséricordieux, je me dois de faire preuve de clémence dans mes relations avec mon prochain, dans mes relations avec mes frères et sœurs en islam. Je dois faire preuve d'une clémence, d'une bonté, d'une grandeur d'âme qui est exemplaire, comme Allah Azza wa Jalla le fait avec nous. Et par rapport à Rahim, dans mes relations avec ceux qui n'ont pas la foi, je dois également faire preuve de bonté, car Allah Rabbul Izza a de la bonté et de la clémence également envers ceux qui ne l'obéissent pas, ceux qui ne croient pas en lui. Allah Azza wa Jal les couvre quand même de sa clémence de ce dunya. Donc je dois m'en inspirer pour être également adopté une attitude bienveillante et avoir beaucoup de bonté envers l'ensemble de la création sans distinction, mais avec bien sûr beaucoup plus de hub d'amour pour ceux qui ont la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hada. Voilà donc pour Ar-Rahman Ar-Rahim. Regarde notre chronomètre. Bon, on en est à 27 minutes, je pense qu'on va s'arrêter parce que on devait commencer Malik Yawmiddin et je vous assure, mashallah, entre le tafsir de Ibn Uthaymin et de Sa'di et Dr Ibrahim, il y a pas mal d'éléments, c'est très riche, ça je dirais que ça fait plaisir, ça renforce la foi et ça nous permet de, en fait ça te permet de savoir et de comprendre comment doit être ton état d'esprit quand tu démarres la salat. Quand on démarre la salat, c'est bien sûr avec Al-Fatiha, et de comprendre qu'à travers chaque verset, quels sont les sentiments qui doivent habiter mon cœur. Dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on a dans le mot Rabb de la bienveillance, on a dans le terme Al-Alamin At-Ta'zim, on comprend la grandeur d'Allah. Dans Rahman Ar-Rahim, on a là l'espoir, on a l'espoir. Et dans Malik Yawmiddin, on verra ça inshallah demain, on a en même temps Ta'zimullah, le fait qu'Allah est le maître, le seul maître en ce jour, et il va juger l'ensemble de la création. On ressent la grandeur d'Allah Rabbul Izzah, on ressent également la crainte que je vais être présenté devant mon Seigneur, et maintenant il me donne la possibilité de l'invoquer et de prier, de faire la salat pour lui. Et donc, je prends considération de cet honneur, de cette chance qu'Allah m'accorde, subhanallah, tout en gardant l'esprit qu'un jour, je serai devant le trône d'Allah. Je serai devant mon Seigneur et il me jugera de ma vie, tout comme là, à l'instant, je suis devant lui en train de faire ses louanges. Ça fait naître en moi l'envie de me préparer pour ce moment. Mais ça fait naître également en moi, on verra ça demain, Inch'Allah, enfin, on est en train de le voir, mais je vous dis les grandes lignes. Ça fait naître en moi également l'espoir qu'un jour, il y aura une justice. Car Allah est maître du jour de la rétribution. Et Dieu seul sait le nombre de volumes d'injustice qu'il y a à notre époque. On voit sur ce qui se passe dans l'actualité, wallahu musta'an, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Et au-delà de ce qui est médiatisé, de ce qu'on peut voir, il y a du dhulm partout. Ça peut être au niveau international, dans un pays où entre les membres d'une même famille, ou de l'oppression qui est cachée qu'on ne voit pas. Et docteur Ibrahim, c'était une parole et je suis resté scotché sur son tafsir tout à l'heure. Il a dit que Malik Yawmiddin, c'est le verset des opprimés. C'est l'espoir des mazloumin, celui qui est opprimé le lit avec espoir que même si à cet instant je suis dans cette situation où je ressens l'injustice, mais je sais que Allah est maître du jour de la rétribution et comme jour de Qiyama, le mulk sera à lui uniquement. Il a décidé que dans ce monde, il donne une part de royauté à des gens qui le méritent, mais des gens qui vont en faire une bonne utilisation, mais des gens qui vont être injustes, les tyrans. Le jour de Qiyama, Allah Azza wa Jalla est le seul maître, et je place ma confiance en celui qui va juger sa création avec justice et équité. Et la justice que j'ai toujours cherchée dans ce monde, et que je n'ai jamais trouvée, c'est en ce jour que je vais la trouver. Je vais conclure, je vous libère pour ceux qui vont rompre le jeûne dans quelques instants, afin que vous fassiez vos doigts. Il y a une petite anecdote qui est magnifique, elle est belle et j'aimerais que vous la reteniez. Il cite donc وَيُرْوَى عَنْ عُمَرْ ibn عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ. On connaît Umar ibn عَبْدِ الْعَزِيزِ, petit-fils de Umar ibn al-Khattab. Il était connu comme étant le calife juste, en termes d'équité à son époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il est rapporté que أَنَّهُ شَتَمَهُ رَجُلٌ, une personne avait insulté Umar ibn عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ عُمَرْ لَوْلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَجَبْتُكَ. C'est beau, c'est quelques mots et c'est magnifique. Dis, sache que s'il n'y avait pas un jour de Qiyama, je t'aurais répondu. Si le jour de Qiyama n'existait pas, j'aurais répliqué. mais sachant qu'il y a un qiyama, je me tais et je m'en remets à la justice divine. Et je pense que cette réaction de foi de Omar ibn Abdel Aziz, elle doit nous inspirer et nous permettre de relativiser, nous permettre de nous mettre moins en colère, de moins nous emporter dans les situations, dans les conflits, d'accord ? Quand on peut régler les conflits, on le fait, parce qu'on ne souhaite pas non plus qu'un opposant, quelqu'un qui a un souci avec nous, soit puni le jour de Qiyama. Mais lorsque vous vous retrouvez avec des gens qui vous ont fait du mal, ouvertement ou secrètement, de façon obscure, et que ces personnes persistent à essayer de vous attaquer, à vous nuire sur tous les plans, à un moment donné, hasbunallahu wa ni'mal wakil, on doit être capable de s'en remettre à Allah, de placer notre confiance en Allah. On fait dua, ya Rabb, nasallallahu al-afiya, wa Allah protège-moi, libère-moi de ce mal, et ainsi de suite, de ces problèmes, éloigne les ennemis de moi. Tout ça, ce sont des dua que nous devons faire. Mais si on se rend compte que Allah a décidé que ces personnes continuent à être nuisibles, à te faire du tort, à un moment donné, on continue à faire ce doua, mais dans mon cœur, il doit également y avoir ce verset Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ou alors d'autres versets wa ufawwidu amri ila Allah, je m'en remets à mon Seigneur, et être conscient que si justice il n'y a pas de ce dunya, il y aura assurément le jour de Qiyam. Et chaque fois que je vis une injustice, ce sont des récompenses, parce que c'est une épreuve, l'injustice. Ce sont des récompenses, ce sont des bonnes actions greffées dans mon livret d'action, et celui qui te fait du mal ne réalise pas que tu es en train de que le jour de Qiyama, ce sont ses bonnes actions, s'il en a fait, qui te reviendront. Et si c'était quelqu'un qui ne faisait pas de bonnes actions, ce sont tes péchés qui seront versés dans son livret de Sayyi'ad, parce que les réparations se feront le jour de Qiyama de cette façon. Échange de bonnes actions et également échange de péchés. Ainsi donc, si tu as beaucoup de péchés et que tu es opprimé, sache que d'une certaine façon, il y a une cohérence, il y a une sagesse dans tout ça, et que le jour de Qiyama, tes péchés seront retirés et déposés dans le compte de celui qui t'a fait du mal de ce dunya, et la justice aura lieu dans le delà. Tout ça, ça découle de Malik Yawm al-Din, et cette citation de Omar ibn Abdel Aziz doit attirer notre attention et nous permettre de relativiser et de comprendre que ce monde n'est pas une finalité. Même si tu meurs de ce monde opprimé, des gens t'ont insulté, n'ont pas reconnu ce que tu as fait et ils ont détourné tes paroles ou ils ont essayé de te causer du tort, et que tu meurs comme ça dans cette situation, ce n'est pas un échec. C'est pas que tu as quitté ce monde certes opprimé, mais sans que personne ait reconnu la vérité. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète surtout pas, aie confiance en Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, parce que c'est lui qui est le Malik Yawm al-Din. Qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, et vraiment Al-Fatiha, c'est suffisant pour comprendre la vie. Tu comprends Al-Fatiha, tu comprends Subhanallah, le but de ton existence, tu relativises toute chose. Là, dans ce verset, il y a les rapports avec les gens aussi, le mal qu'on te fait. Ça te permet de trouver une telle sérénité dans ta vie que tu arrives à avancer et finir par clamer haut et fort, tout simplement, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » et c'est le but de ma création. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.